L'écho des artistes du festival d'Avignon.
L'écho des planches part à la rencontre des artistes au gré de ses coups de cœur. Bonne écoute à tous sur l'écho des planches. Bonjour, alors nous sommes en compagnie d'Olivier Balazuc qui joue l'imparfait dans le festival d'Avignon à la chapelle des Pénitents Blancs. Qui met en scène et qui a écrit donc le texte de l'imparfait. C'est un spectacle qui vient de votre compagnie, la compagnie de la Jolie Pourpoise, que vous avez fondée en 2005 et qui est coproduit, si j'ai bien compris, par le CDN de Sartrouville.
C'est tout à fait ça.
Et donc vous avez beaucoup travaillé avec Olivier Pi, à tel point que je vous ai découvert de cette manière dans Illusion Comique, puisque vous êtes un personnage de la pièce. Et donc c'était juste pour rappeler ça, parce que ça m'avait fait... j'avais trouvé ça assez drôle, parce que c'est une pièce qui est assez drôle sur ce principe de nommer des gens et que les gens jouent leur propre rôle sur scène, c'est assez intéressant.
Nous sommes notre propre mise en abîme, c'est assez effrayant.
Et j'ai pu aussi découvrir avec beaucoup d'admiration votre mise en scène de La Boîte de Jean-Pierre Siméon au TNP la saison dernière, voilà, qui était vraiment aussi un très très beau spectacle. Et donc, après cette longue introduction, on va parler de l'imparfait, hein, enfin. Alors j'ai d'abord lu le texte avant de venir. Je l'ai eu dans les mains dès novembre dernier. Et je me demandais quel était le rapport que vous aviez avec ce texte, avec cette écriture. Si vous l'aviez finalement écrit comme un conte pour enfants, ou si vraiment vous l'aviez pensé à l'écriture comme une pièce dramaturgique en tant que telle.
Plutôt comme un conte, probablement parce que la pièce charrie beaucoup de sujets qui nous préoccupent. Et j'avais envie de les traiter à hauteur d'enfance. Alors probablement que quand on écrit pour les adultes, on part des thèmes. Quand on écrit pour les enfants, on a besoin d'une résonance plus intime, plus profonde. C'est là que les contes sont des structures qui nous permettent d'affronter le réel autrement. Donc je l'ai vraiment imaginé comme un conte. On me parle beaucoup autour de cette pièce de questions comme la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Tout ça est là, quelque part, mais le conte, c'est aussi une surface d'histoire, et ça pourrait être celle de la rivalité, tout simplement, puisque le personnage Victor est confronté au modèle qu'on cherche à lui imposer, des modèles assez prescriptifs qui ont trait à l'éducation, qui ont trait à toutes sortes d'apprentissages et d'intégration à la société, à tous les rituels initiatiques. Donc là, le conte permet évidemment pour tous les publics d'identifier ces rituels de passage. Donc c'est d'abord un conte, et dans le détournement de ces différents rituels familiaux et autres, certains thèmes affleurent. Qui touche à la société d'aujourd'hui.
Donc justement, vous parlez de contes, et moi, quand j'ai vu votre pièce, quand je l'ai lue d'abord, j'ai beaucoup pensé à Maeterlinck, en fait. Puisqu'il y a cette naïveté de...
C'est une belle référence.
Cette naïveté de l'enfance que Maeterlinck aussi utilise dans ses pièces de manière très abondante, à quelque chose de profondément dramaturgique. Et chez Maeterlinck, l'innocence est liée à une forme d'insouciance, mais en même temps à une grande gravité. On se souvient que Golo, dans la pièce, la fameuse scène où Pélias se s'entortille autour des cheveux de Mélisande qui tombe du balcon. Qu'est-ce qu'il leur dit quand il les prend en train de faire ça? Il leur dit « Vous êtes des enfants ». Voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait cette dimension dans votre pièce, cette dimension finalement de l'enfant qui doit survivre finalement à son innocence. Comment est-ce que vous avez pensé cette chose très, très subtile qu'on retrouve vraiment dans la littérature en général?
Je le pense moins que je ne le ressens. c'est peut-être à l'origine de l'écriture. Je décide pas forcément initialement d'écrire pour les enfants ou pour un public adulte. Je crois que j'écris pour l'enfance, d'une manière ou d'une autre, pour la part d'enfance. Alors je ne renie pas du tout la référence à Maeterlinck, qu'au contraire, elle me touche beaucoup. Je pense qu'en chaque spectateur, on doit viser l'enfance, parce que c'est la part la plus intéressante du spectateur. C'est le mélange de l'infantile, donc des émotions vraies, des questions premières, qu'au bout d'un certain temps, on a recouvert par énormément de culture, de références, voire de renoncement. Quand on devient un spectateur trop cultivé, c'est qu'on a perdu le lien avec les questions entières, la part désirante. Voilà. Alors, l'acte poétique de Maeterlinck, là-dessus, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a l'émerveillement de l'enfance et puis il y a le lien à la mort, à la finitude. Voilà, moi, c'est vraiment cette part d'enfance-là qui m'intéresse. J'ai l'impression que c'est une pièce à hauteur d'enfance. C'est-à-dire que les questions que j'y pose, elles ne sont pas posées d'un point de vue surplombant, qui serait le point de vue d'un adulte qui sait. Voilà, je préfère la posture de l'enfant qui s'enchante encore et qui ne sait pas toujours. Voilà.
Alors justement, vous dites l'enfant qui s'enchante encore, mais il y a quelque chose d'éminemment philosophique dans ce texte, au sens fort du terme, dans la mesure où ce petit garçon qui est Victor va partager son expérience du monde en racontant son histoire au spectateur dans une sorte de grand voyage initiatique. Moi, qui m'a beaucoup fait penser à ce que vit Candide, en fait, c'est-à-dire qu'il a plein d'idées dans la tête, plein de représentations qui sont des représentations d'une société merveilleuse, idéale, et au fur et à mesure de son avancée dans ce monde qui lui met tout le temps des barrières, il se rend compte que finalement le monde n'est pas si parfait que cela. Est-ce que vous avez pensé à Candide quand vous avez écrit ce texte?
Alors, je n'y ai pas spécialement pensé, sauf à un moment dans le titre de la deuxième séquence, je crois, de la première, Le meilleur des mondes possible. Oui, il y a peut-être un pangloss qui passe dans la vie parentale chez les parents de Victor. Il y a l'apprentissage du monde dans l'imparfait, ça c'est sûr. Accepter l'imperfection du monde, l'imperfection de soi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est admettre la perfectibilité. Alors, le lien à Voltaire, pourquoi pas, dans cette mise à mort de l'idéalisme. L'idéal, c'est beau, parce que l'idéal, c'est une sorte de viatique ou de pépite, de promesse dans l'aventure du réel. L'idéalisme, c'est un masque. C'est un masque comme ceux qui essayent de dormir dans les avions, là, et puis qui se mettent ça sur les yeux pour avoir une nuit artificielle. L'idéalisme, c'est quelque chose qui souvent nous coupe de l'épaisseur du monde, qui nous coupe des autres. C'est ce que va découvrir, d'abord à son corps défendant, le personnage de Victor, mais c'est ce qui va lui permettre aussi de pourfendre l'idéalisme parental et pouvoir imposer un jeu au travers de ces jeux. Et donc devenir une personne en tant que telle. L'idéalisme peut être quelque chose de très dangereux dans nos sociétés, parce que c'est un modèle prescriptif, très violent parfois, dans l'idéologie de la performance qu'on a aujourd'hui, de la réussite à tout crin. On est face à une forme d'idéalisme très excluant pour tous ceux qui ratent. Voilà. Et combien réussissent selon ces modèles? Alors on essaye de se conformer, tout un chacun, à quelque chose qui nous empêche de vivre en réalité. Et la force de l'enfance dans le personnage de Victor, c'est de pouvoir s'ébrouer et de renverser tout ça, comme dans un gigantesque jeu de chamboule tout, de se libérer d'un modèle prescriptif, du fantasme, de l'idéalisme de ses parents, et en bout de course, de les libérer eux-mêmes. Et je crois beaucoup à ça. On dit souvent que le théâtre jeune public, c'est un public captif et que les parents amènent les enfants au théâtre. Moi, j'ai l'impression que ça va être le contraire, c'est que c'est les enfants qui vont amener les parents au théâtre et peut-être leur rendre quelque chose, peut-être leur rendre leur enfance. En tout cas, c'est ce qui se passe dans la pièce.
Justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vraiment cette question de l'émancipation, que ce soit l'émancipation des parents ou l'émancipation de l'enfant, qui crée vraiment la dimension poétique, là, cette fois, de la pièce. Quelque chose de... Moi, j'ai pensé à Rimbaud, en fait. C'est-à-dire, voilà...
C'est trouver, que des belles références, hein, je n'en renie aucune.
Trouver sacré, enfin, c'est ce qu'il dit dans le poème L'alchimie du verbe, je trouvais sacré le désordre de mon esprit. Voilà, et j'ai trouvé que, pas tant dans le texte quand on le lit, mais dans la mise en scène, que vous avez voulu mettre un sacré bordel à la fin. Comment est-ce que vous avez pensé la chose par rapport à l'écriture du texte quand vous êtes passé à la mise en scène ?
Je me suis beaucoup posé la question de l'écriture. C'est peut-être une de mes pièces où la parole poétique, est la moins présente en surface. Parce que je voulais que ça puisse toucher les publics de la manière la plus large possible et le plus tôt possible. Donc effectivement, peut-être que la formulation poétique est la partie immergée de l'iceberg et je voulais que ça puisse être une grande vague poétique mais scénique, que ça passe par le corps. Parce que cette fameuse libération, il faut qu'elle mette à mal un carcan mental d'autosuggestion aussi. Donc la parole poétique n'était pas juste dans sa formulation, dans la bouche de ces personnages-là, qui étaient des personnages très contemporains, emprisonnés dans des rituels familiaux, sociétaux et autres. Et la poésie, on le sait très bien aujourd'hui, on a cessé de la parler. Donc il fallait peut-être, c'est un enfant poète, Victor, moins passer par une formulation en tant que telle que par un geste scénique. Et c'est passé par la peinture, c'est passé par le dessin, puisque toute la pièce tourne autour du dessin de l'enfant Victor. C'est assez extraordinaire quand on voit les dessins de la petite enfance. Les enfants sont très très libres jusqu'à 4-5 ans. C'est assez extraordinaire. On les voit de manière péremptoire s'emparer d'une feuille de papier, de couleur, d'un crayon et en quelques gestes sûrs, sans aucun doute, accoucher d'un monde et dire c'est ça. Et c'est souvent extraordinaire parce que le geste dans sa force qui n'est pas mimétique, c'est pas un geste qui cherche à reproduire parfaitement les formes du réel, des modèles. Non, c'est un monde intérieur qui se déploie, qui se cristallise en quelques gestes sur la feuille de papier. Et puis à partir de 6 ans, on leur apprend, et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, on leur apprend à reproduire quelque chose, à évaluer ce qui est sur la feuille en fonction du modèle. Tu as mal fait la main, tu as mal fait le nez, je ne reconnais pas bien les cheveux, etc. etc. Et donc, le génie poétique se perd un peu pendant un temps et on le retrouve plus tard si un enfant, un adolescent ou un adulte en devenir, après avoir appris à dessiner, retrouve le geste péremptoire, désapprend. C'est ce mot magnifique de Picasso, quand il a presque 80 ans et qu'une jeune femme lui demande, éperdue d'admiration, mais comment avez-vous fait pour peindre cette colombe ? Une heure vous suffit, le tableau va faire le tour du monde. Et il lui répond, non, il ne m'a pas fallu 2 heures, il m'a fallu une 60aine d'années. Et je crois que c'est très vrai. Et il expliquait aussi souvent qu'il avait cherché à retrouver le geste originel, le geste de l'enfance, mais dans le savoir-faire d'un peintre qui a tant appris et qui a traversé l'histoire de la peinture. Bon, alors voilà, je voulais que la subversion poétique... pour qu'elle puisse être violente à tout niveau sur le plateau, que la formulation ne soit pas excluante, ou qu'on ait l'impression que l'enfant sait, ça passe par le dessin d'abord, et c'est vrai que la libération parentale viendra aussi avec la créativité retrouvée. C'est peut-être ça que le personnage leur rend, c'est une forme de créativité, tout imparfaite soit-elle.
Et justement, vous parlez des dessins, et c'est une dimension très importante du spectacle, mais aussi du livre, hein, il faut le dire, puisque c'est la collection Eyoka Jeunesse qui publie chez Actes Sud Papier des pièces de théâtre qui sont illustrées. Il y a aussi Olivier Py, La jeune fille, le diable et le moulin, que j'ai en tête, qui est dans cette collection avec des dessins. Et donc ces dessins...
ce sont des dessins de Charles Dutertre, que j'aime beaucoup.
Et on retrouve, il me semble, le même trait. Est-ce que c'est la, certains dessins dans le spectacle sont aussi des dessins de Charles Dutertre ou...
Ah non. Dans le spectacle, toute la création visuelle, c'est Étienne Guillol, qui est vidéaste et qui est quelqu'un d'extrêmement doué, et qui est graphiste, dessinateur, peintre, vitraillé. C'est quelqu'un d'extrêmement doué et qui maîtrise aussi le multimédia. C'était très important pour moi de pouvoir travailler avec quelqu'un tout au long de la pièce sur la distorsion du dessin et finalement le rapt de l'enfance par Corporate Incorporated, qui est la mise en abîme de Big Brother, si on veut, ou de la récupération de l'enfance par l'industrie dans une société qui devient tout à fait infantilisante. C'est-à-dire que ceux qui sont traités en enfants, un peu comme chez Gombrowicz dans Ferdi Durk, c'est les parents, d'abord et avant tout. Peut-être que le plus mûr, c'est l'enfant, parce qu'un enfant ne joue pas à l'enfance. C'est ça qui est extraordinaire dans la formule sacramentelle « Il était une fois », que les enfants prennent tout à fait au sérieux parce qu'ils nomment le monde. Les enfants sont à l'endroit du poème. On perd le poème souvent en grandissant, c'est-à-dire dans l'apprentissage de la maîtrise, on perd quelque chose. Et il faut un abandon à soi-même des années plus tard pour retrouver l'endroit du poème et donc du coup l'endroit de l'enchantement. Parce que tout se passe aujourd'hui comme si cet apprentissage de la maîtrise, c'était celui d'une forme de renoncement à l'enchantement, à l'émerveillement, au nom du réalisme. Voilà, ça, que ce soit dans L'Imparfait ou dans d'autres pièces, c'est un peu au cœur de ma poétique, ou en tout cas de mon questionnement. C'est-à-dire comment mettre ensemble dans le monde d'aujourd'hui et la maîtrise et l'enchantement et le poème et éventuellement la rationalité. On essaye d'avancer en funambule avec ces deux notions-là aujourd'hui.
Oui, c'est très drôle cette... Ce texte aussi, il faut en parler aussi de cette dimension un peu humoristique. Il y a quelques traits d'humour. Enfin, c'est plus des traits. Oh, enfin, oui. C'est très exagéré. C'est très très drôle. Et moi, ça me rappelle un peu les gens qui pouvaient détester mes parents aussi et que dans leur dos, ils disaient du mal d'eux. Enfin, voilà, c'est une certaine Marie Rogère, par exemple, qui est quand même assez extraordinaire et qui nous rappelle un peu tous. Enfin, moi, ça m'a rappelé ma voisine portugaise dans mon village. Et Jean-Michel Corporate aussi, voilà. Et plutôt que vous demander si vous avez fait ça pour faire rire les grands, parce que ce serait un peu banal de vous demander ça, mais savoir si vous avez fait ça pour faire ressentir au jeune public un sentiment d'étrangeté. Parce que le jeune public qui voit ça, les enfants qui sont pas ados, qui sont vraiment des enfants, ils n'ont pas forcément les codes pour interpréter cet humour-là. Enfin, je pense en tout cas.
Ah, alors
est-ce que c'est étrange? Est-ce que vous avez fait ça pour créer de l'étrangeté? De créer de l'étonnement.
Créer de l'étonnement, oui. De l'étrangeté, on en rencontre souvent dans le feuilleté du réel. Même très jeune, hein, on identifie ces choses-là. Je crois que dans la figure de Marie Rogère, pour ne citer qu'elle, j'étais très heureux de ce prénom le jour où il s'est imposé à moi. J'ai su que le personnage était là. Elle a dans son idiolecte ou dans son métalangage des éléments que les enfants repèrent très très bien, et donc du coup ça les fait rire. Le fameux « et mon bisou », les enfants se le disent à la sortie. On a tous eu une tante, une voisine un peu effrayante, comme on en retrouve des avatars dans l'œuvre de Roman Polanski. Je pense à Rosemary's Baby, la voisine qui change à chaque fois de tenue et qui est une sorte de d'ogresse pourtant très à la mode dans le New York des années 60 ou 70. Non, on a tous une Marie Rogère dans la constellation imaginaire. Alors après, ça fait peut-être rire aussi les adultes à d'autres niveaux. Ce que je voulais montrer dans un personnage comme Marie Rogère, c'est un personnage qui vient de l'extérieur du petit monde. On a dans la scénographie cette maison fondamentale, c'est la maison bachelardienne. Bon, il n'y a pas la cave, mais la cave, c'est le réservoir imaginaire, c'est la nappe phréatique imaginaire. On la devine. Mais elle nous est présentée au début par Victor, comme vous le disiez tout à l'heure, comme Candide peut présenter son monde au début du livre, le château de Thunder Ten Tronckh, qui devient la métaphore du monde entier. Voilà, et puis petit à petit, ça évolue dans sa tête. Et puis, il y a des personnages qui viennent de l'extérieur et qui sont comme des bacilles, mais des bacilles nécessaires, qui viennent corrompre cette vision un peu simpliste du monde où tout est parfait. C'est d'ailleurs ce qui va permettre à Victor de se rendre compte qu'il y a des lignes de fuite et qu'il faut affronter l'extérieur pour refonder en conscience cette fois le monde dans lequel on vit et en être à la fois acteur et spectateur. Marie Rogère, c'est la première, et on sent bien qu'elle est agissante, pas seulement dans le monde de Victor, mais aussi dans le monde des parents. Et ça fait rire plus les adultes peut-être, ces références-là. Elle est le cauchemar de la mère. Comme souvent, la meilleure amie de maman est une référence extrêmement violente, proliférante et agressive. On l'a imaginé, cette Marie Rogère. On comprend qu'elle a des enfants elle aussi, mais elle les voit un quart d'heure par jour. Elle a un emploi du temps extrêmement huilé. On sent qu'elle a un boulot, soit dans la mode, soit dans la presse. Elle est plus chic que la mère. Elle a peut-être quelques années de plus. On sent que la mère aimerait lui ressembler. Elle a peut-être un pouvoir d'achat un peu plus important. Ça, les adultes le ressentent et peuvent le nommer plus facilement. Alors que pour les plus jeunes, ça va être l'agression intime du bisou. bon, mais je pense que chacun reconnaît sa Marie Rogère. Fais sortir la Marie Rogère qui est en toi.
Et ça me fait plaisir que vous évoquiez la notion de ligne de fuite, parce qu'il se trouve que j'ai fait un mémoire sur la catastrophe en ligne de fuite dans l'œuvre de Caltès et de Lagarce.
Ah, c'est pas mal.
Et justement, c'est intéressant parce que j'osais pas trop partir dans cette voie-là, parce que là on pourrait parler pendant très longtemps. Mais c'est ce qui arrive aux parents en fait, cette impossibilité de la ligne de fuite, parce que comme dit Deleuze dans Mille Plateaux, qu'est-ce qui nous dit que en voulant tracer une ligne de fuite, on va pas se retrouver en gros avec les problèmes sur les bras, les conflits qui finalement ne peuvent pas nous échapper. Alors il me semble quand même que il y a quand même une note d'espoir dans votre travail sur cette question de la ligne de fuite, parce que les parents finalement atteignent à cette ligne de fuite. Et comment vous avez pensé du coup cet itinéraire des parents, qui est quand même un peu étrange, parce qu'ils oublient leur enfant, enfin entre guillemets, et comme le dit à un moment, si justement Victor II, le fameux robot, celui qu'ils aiment, c'est le Victor idéal, c'est le Victor qu'ils se représentent en eux. Du coup, comment est-ce que vous avez fait dans l'écriture, parce que c'est vraiment, moi ça m'a vraiment fasciné en fait, c'est pour ça que je vous demande, comment est-ce que vous avez fait dans l'écriture pour faire en sorte que les parents finalement soient toujours dans cette urgence, soient toujours dans cette catastrophe, soient toujours dans cette ligne de fuite, et que jusqu'au bout, on ne sait pas comment tout ça va terminer. Comment est-ce que vous avez écrit finalement cette partition des parents, qui est une partition moi, qui m'a fait très peur, en fait, quand j'ai lu le texte.
Oui, je suis d'accord.
Et quand j'ai vu sur scène, et qui effraie totalement.
Oui, alors, il y a beaucoup de questions en une. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à toutes, mais je tiens la ligne, j'essaye de tenir la ligne de fuite par rapport à cette histoire de parents. Je pense que le parcours initiatique, c'était le pari de cette œuvre-là et de ce spectacle-là. Il est finalement plus pour les parents que pour les enfants. Généralement, dans un conte, tout tourne autour d'un enfant qui va grandir et qui, dans le rituel de passage, va fourbir des armes imaginaires d'abord et concrètes pour parvenir à la maîtrise du monde. Il y a ça évidemment pour Victor, mais il y a ça surtout sur les parents. C'est-à-dire que le grand renversement, c'est pour les parents. On a essayé d'adopter avec le scénographe Bruno de Lavener une sorte de ligne claire pour parler d'une naïveté presque bédéique de bande dessinée, mais une ligne claire qui serait vite effrayante, qui pourrait être joyeusement naïve, comme dans la BD belge au tout départ du spectacle, quand Victor dit il était une fois un royaume, et dans ce royaume il y avait les éléments du conte, le roi, la reine et le petit prince. Et très très vite, quand on voit évoluer les parents, la redite du rituel, les attentes, les principes d'évaluation dont ne se rend pas tout de suite compte Victor, c'est un système d'enfermement. Et donc la ligne claire, la naïveté, devient le masque d'un monde beaucoup plus effrayant. Ça, c'est sûr. Donc on l'a imposé dans la scénographie presque comme un agacement optique pour que les spectateurs aspirent à la... Alors pas tout de suite à la destruction de cette ligne-là, qui est en plus très frontale. On s'est aussi inspiré des représentations de la famille idéale telle que la véhicule aujourd'hui les médias, les catalogues d'immobilier, de meubles. Voilà, pour moi c'était un peu la famille Ikea. C'est très intéressant parce que les représentations qu'on a, elles sont toutes frontales, sans ligne de fuite. La famille de face, souvent une table de bois clair, parce que on est bio aujourd'hui et on a un écho pour la planète. Derrière un mur blanc et puis une plante verte qui traîne quelque part. Alors nous, on a fait un pan de mur jaune. Mais le principe est elle-même, et qu'on se dise, mais il n'y a pas d'épaisseur du réel. Donc effectivement, ce que cherche à trouver dans le dépassement de la ligne, puisque c'est le point de départ de la crise pour l'enfant, puisqu'il dépasse de son dessin, c'est le dépassement, c'est la ligne de fuite, c'est le possible pas de côté, c'est le chemin de traverse. Et qu'on ait envie, au fur et à mesure que la pièce se déroule, d'avoir l'implosion de ce système-là. Effectivement, on peut avoir peur, comme dit Deleuze, en prenant cette ligne-là, de ne pas savoir où l'on va. C'est-à-dire, tirer une ligne, c'est tirer un écheveau de possible. Mais pourquoi sommes-nous au monde ? En tant que poète... même si je peux être terrorisé aussi en tant qu'homme privé, mais en tant que poète, je suis là pour dire, aimons la pelote de possible. Nous sommes au monde pour cela. Et en cours de route, nous rencontrons des compagnons. Et en tirant le fil du destin, on ne rencontre pas forcément les parcs immédiatement. D'ailleurs, les parcs peuvent couper le fil à n'importe quel moment. Ça, évidemment, l'heure n'est pas annoncée. Et voilà, comme il y a les marchands aujourd'hui de désespoir qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire ceux qui nous imposent un fil rouge, et si on ne le suit pas, on est condamné d'avance pour la grande industrie ou pour une certaine politique. Dans l'idéologie sécuritaire, dans l'idéalisme sécuritaire, on n'a pas droit au pas de côté. Il y a des protocoles sécuritaires, il y a des protocoles professionnels. Maintenant, même pour un numéro vert, pour se plaindre d'une boîte de petits pois qu'on n'arrive pas à ouvrir, c'est enregistré pour notre sécurité. La personne qui est au bout du fil doit suivre un protocole de questions-réponses. On ne rencontre pas un être humain au bout du fil, mais une sorte de répondeuse automatique, comme dirait Novarina. Voilà, donc le pas de côté, il est salubre, il faut le chercher, il faut l'espérer, et ne pas avoir peur de rencontrer un destin. Alors là, c'est Peer Gynt. Bien sûr qu'on peut rencontrer le fondeur de boutons à tous les carrefours, mais on peut négocier avec lui aussi. Donc, naître au poème par là même. Les fossoyeurs de la joie, aujourd'hui, nous vendent des contrats à tout bout de champ et on n'a pas le temps de lire tous les petits alinéas. Donc, aimons le pas de côté et aimons la ligne de fuite.
Eh bien, merci Olivier Balazuc d'avoir répondu à nos questions. Et donc, je souhaite à ce texte-là, très sincèrement, de devenir un classique de la littérature. Mais vraiment, parce que c'est un texte tout simplement magnifique. Merci Olivier Balazuc.
Beaucoup.